RCF. Pour la plupart d'entre nous, la relation à la mer, aux océans, est bien souvent un mélange d'admiration et de crainte. Grandeur, beauté et puissance de la mer en surface, mais ses profondeurs nous inquiètent, nous effraient. Guillaume Néry, ce n'est pas votre cas. Vous, la mer, vous l'aimez passionnément. Dans votre dernier livre, Nature aquatique, que vous publiez chez Artaud, vous lui déclarez même votre amour dans une belle lettre que vous lui avez écrite pendant le confinement. Vous êtes apnéiste, Guillaume Néry, l'un des plus célèbres plongeurs apnéistes du monde, 4 fois recordman du monde d'apnée en poids constant. On vous a vu souvent nager, voler même, dans les abysses, seul ou avec des cachalots ou des requins, dans des vidéos visionnées des millions de fois sur YouTube. Pourtant, Guillaume Néry, je sais que lorsque vous étiez enfant, vous vouliez être astronaute. Alors, est-ce qu'il y a pour vous un parallèle entre l'exploration du cosmos dans cette immensité sidérale et la plongée dans les abysses des océans?
C'est une évidence pour moi qu'il y a un lien très très fort. Déjà, il y a cette idée de l'inconnu. Sur notre planète, on connaît très peu. Les fonds sous-marins, là je parle d'un point de vue scientifique, mais en tant qu'habitant de la planète, dès que l'on va mettre la tête sous la surface, c'est quand même un monde de sensations, c'est un monde avec une autre lumière, d'autres couleurs qui s'ouvrent. Et il n'y a que là que l'on peut vraiment expérimenter quelque chose de radicalement différent de l'expérience terrestre. Mmh. Et effectivement, quand on lève les yeux vers le ciel, il y a cet inconnu, cet infini qui s'ouvre devant nous, du cosmos, qui a toujours fasciné les hommes. Et j'y vois vraiment un espèce de lien. Alors, il y a quelque chose de très vertical là-dedans. Soit je lève les yeux vers le ciel et mon regard se perd dans l'infini, et soit je baisse mon regard sous la surface. Et puis il y a aussi ce sentiment, cette obscurité, cet infini.
Moi, je l'ai particulièrement ressenti en regardant l'un de vos films. Hein, on va le voir, vous avez réalisé plusieurs films avec Julie Gauthier, et notamment dans Ocean Gravity. J'avais vraiment l'impression que vous étiez comme un cosmonaute dans l'espace. C'était voulu, non ?
C'était voulu, c'était complètement voulu. Ce petit film qui est très court, hein, qu'on peut trouver sur Internet en libre accès, a été tourné en Polynésie française, dans un atoll. Donc un atoll, c'est un anneau de sable et de corail. Et il y a l'océan à l'extérieur, à l'intérieur il y a le lagon. Et il y a ce qu'on appelle des passes, ces zones de communication
qui permet au bateau de passer.
Qui permet au bateau de passer et qui est le lien entre le lagon et l'extérieur. Et avec les marées, ces atolls respirent avec une entrée d'eau de l'océan à la marée montante et le lagon se vide ensuite par ces passes. Et donc ça crée un courant qui est énorme et qui peut, à certains endroits, et notamment dans cet atoll-là qui s'appelle Rangiroa, qui est un endroit très connu des plongeurs, ça crée un courant très fort.
C'est pour ça qu'on a l'impression, en vous regardant, que vous volez. Vraiment,
c'était l'idée.
Moi, j'invite tous les auditeurs à regarder ces films. Là, vous volez.
Oui.
Et en plus, vous n'avez pas de palme, vous êtes pieds nus. Souvent dans les films, j'ai remarqué que vous étiez pieds nus, comme si c'était nous qui étions là, dans l'eau. Et hop, vous volez. Et puis, d'ailleurs, vous le déclarez souvent dans votre livre, vous parlez de « j'ai l'impression de voler ». Pour ceux qui connaissent pas l'apnée, et moi je l'ai découvert avec vous, à 25-30 mètres, vous atteignez un point de bascule, comme vous dites, et là vous vous laissez entraîner par le fond. Et c'est comme une chute libre. Et est-ce que là vous avez particulièrement l'impression de voler, pour revenir sur cette image ?
Oui, c'est le moment, dans cette grande plongée, cette grande quête des profondeurs, c'est un peu ce point de bascule que je vais rechercher, et qui est une forme de moment de libération. Les 20-30 premiers mètres, la poussée d'Archimède me maintient proche de la surface. Donc pour descendre vers le bas, je dois palmer.
Vous devez palmer.
Donc je dois fournir un effort. Et la pression de l'eau augmente avec la profondeur. Cette pression a un impact sur le volume d'air que j'ai dans mes poumons. Et ce volume d'air, c'est ce qui me fait flotter. Et à partir de 25-30 mètres, je deviens... mon corps est plus dense, mes poumons sont comprimés. Et donc je deviens lourd. Et c'est la zone à peu près à laquelle je peux arrêter de palmer. Et je me laisse complètement entraîner. Et oui, là, il y a une vraie sensation de vol, mais un vol qui est très doux comparé à ce que l'on peut expérimenter quand on fait de la chute libre, par exemple, où oh là, il y a la violence du vent, la vitesse du vent, l'adrénaline. Là, sous l'eau, c'est un moment d'une grande douceur.
De la douceur. C'est drôle, vous parlez de douceur. Effectivement, quand on regarde vos images, on a l'impression que c'est un monde qui est très doux. Et en même temps, le monde de la mer et le monde sous-marin fait peur, vous le savez, à beaucoup de gens. C'est un lieu d'inquiétude pour beaucoup de gens.
Mais bien
vous
sûr,
avez dû apprivoiser cette peur ou vous avez toujours été attiré par ces fonds sous-marins?
Non, assez rapidement. Je sais qu'il y a un moment où j'ai pu... vraiment réaliser que ces peurs-là n'étaient que des constructions mentales, c'est quand j'ai mis un masque. Très souvent, les humains ont peur, un, parce qu'ils n'y vont pas, parce qu'ils restent au bord, et donc forcément, quand on est au bord de la mer, on ne voit que la surface. Et dessous, c'est le mystère. Depuis la nuit des temps, c'est un lieu qui convoque...
toutes nos peurs, voilà, les lieux des monstres marins, des inquiétudes. Marins, dans la tradition biblique, la mer, c'est le lieu de tous les dangers.
Et à un moment donné, on a inventé, très récemment, hein, au cours du XXe siècle, le masque qui a été cette ouverture du regard vers ce qu'il y a dessous. Et là, tout de suite, on est apaisé, parce que c'est un monde de vie, c'est un monde avec des animaux, évidemment, c'est un monde sauvage. Quand on va se promener en forêt, on peut tomber aussi sur des grosses bêtes. Mais ce sont globalement, généralement, des animaux qui ont une crainte, parfois une curiosité, mais il n'y a pas cette mythologie du monstre marin prêt à nous sauter dessus. Et en fait, il faut le voir.
Il reste quand même la peur des requins.
Mais même les requins, il y a énormément de croyances sur les requins, qui sont des animaux, je nage tous les ans en Polynésie, où je passe plusieurs mois de l'année, où j'ai plongé un peu partout avec des requins. Ce sont des animaux sauvages.
Dans un film, on vous voit entouré de requins.
Tout à fait. Ce sont des animaux qui sont territoriaux, curieux, mais qui n'ont pas comme but premier de se nourrir de l'homme.
Mais ça arrive.
Ça arrive, évidemment. Mais ça arrive et c'est spectaculaire parce qu'il y a cette idée que l'homme est mangé par un animal. Mais il y a beaucoup plus d'accidents d'humains écrasés par des éléphants ou des animaux bien plus dangereux comme les hippopotames, par exemple, bon, dont on ne parle pas vraiment. La morsure du requin interpelle. Et il y a probablement eu l'effet des dents de la mer. Et donc, il y a fait un peu cette fausse image du requin. Mais même à Nice, quand je vais dans l'eau, me baigner au bord, il y a des gens qui disent « Oh là, moi j'aurais peur qu'un requin vienne », alors qu'il n'y en a pas à cet endroit-là. Et c'est complètement...
Imaginaire,
oui, fantasmé. Oui. C'est fantasmé, voilà.
Visage, Thierry Lyonnais.
Guillaume Néry, je ne vous ai pas préparé, je ne vous ai pas dit, mais j'aimerais bien que vous me lisiez un passage de votre livre. À la fin de Nature aquatique, vous écrivez une lettre à la mer. Ça a été pendant ce confinement, où vous avez été frustré d'être, vous habitez Nice, d'être si près de la mer et de ne pas pouvoir vous baigner. C'était la première fois. Et là, dans ce livre, vous écrivez vraiment la souffrance d'être séparé de la mer. C'est assez intéressant en français d'être séparé de la mer. Et donc, je vais vous demander de me lire le début de cette lettre, une sorte de déclaration d'amour à la Méditerranée et à la mer. On ne va pas lire toute la lettre parce qu'elle est longue, mais vous vous arrêterez ici, par exemple.
Okay. D'accord ?
Donc, vous voulez bien nous lire ce passage que vous avez écrit ?
Chère Méditerranée, ce matin, comme chaque matin depuis qu'il nous est permis de nager et plonger à nouveau en toi, nous étions ensemble. Si j'avais la certitude que tu m'es devenu indispensable, il m'aura fallu être privé de tes caresses pendant ces 2 mois de printemps pour comprendre que la vie sans toi n'a littéralement aucune saveur. Tu m'as tellement manqué. En regagnant ton bord, une question m'a traversé. Est-ce que moi, je t'ai manqué ? Oui, forcément un peu. Ta frontière avec le ciel est mon horizon depuis toujours. Mais je me souviens, c'est à mes 14 ans que nous nous sommes réellement rencontrés. J'ai retenu timidement mon souffle et tu m'as accueilli. À chaque nouvelle plongée, je m'armais de ma fougue et me lançais à ta conquête. Je te considérais alors comme le simple décor de mes performances. Tu n'as pas tardé à opposer à ma vanité l'hostilité de ton environnement. Le froid de tes entrailles anesthésiait mes ambitions. L'obscurité de tes profondeurs assombrissait mes illusions. et cette pression, ta redoutable pression qui comprimait mes chairs et broyait mon orgueil. Les années ont passé, pendant lesquelles j'ai appris à respecter ta fragilité et ton humeur changeante, pendant lesquelles je me suis nourri de tes enseignements.
Il y a beaucoup de choses dans ces quelques lignes, mais j'aimerais d'abord savoir là, spontanément, si je vous dis cette mère, c'est elle qui vous a façonné? C'est-à-dire que l'homme d'un peu plus de 40 ans que j'ai en face de moi aujourd'hui, il a été façonné vraiment par la mère, ou plutôt par les humains qui ont été avec lui au cours de ces années?
Je pense que c'est un tout. Il n'y aurait eu que la mère, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Parce que là, cette aventure des profondeurs, c'est une aventure que l'on a vécue ensemble, avec un groupe de personnes tout autant passionnées que moi de la mère. Et c'est à la fois dans notre expérience personnelle avec la mère, mais dans ce que l'on a construit, dans ce que l'on a compris, un peu à contre-courant du monde et de la société, ensemble dans notre communauté.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour beaucoup de gens, surtout ceux qui ont vu le Grand Bleu, il y a une démarche très solitaire des apnéistes, et vous, vous insistez toujours sur l'aspect communautaire. Mais il y a quand même une dimension solitaire. Il n'y a pas une rencontre des deux, en fait
Il y a une pour moi, les deux peuvent parfaitement aller ensemble. C'est-à-dire qu'il y a ce moment qui est passé sous l'eau, où là, oui, c'est un tête-à-tête.
Vous êtes seul, là. Quand vous plongez, vous êtes seul.
On est seul, littéralement, avec nous-mêmes, mm-hmm. et puis avec l'élément, avec la mer. Mais on plonge le long de ce filin qui est comme un fil d'Ariane, qui est un élément essentiel de sécurité, fil d'Ariane le long duquel on est relié et qui nous relie à la surface et aux autres plongeurs qui sont avec moi et qui s'occupent de ma sécurité.
Ils sont là, hein?
Ils sont en surface.
Il y en a en surface et puis il y en a sous l'eau.
Et ensuite, pendant que je plonge, il y en a certains qui viennent me retrouver sur la fin de la remontée et qui m'accompagnent. Et donc, il y a effectivement ces deux aventures qui cheminent ensemble, cette aventure personnelle, solitaire, qui dure le temps de la plongée, et puis tout ce temps en surface où l'on prépare, où l'on échange, parce que c'est beaucoup d'échanges de connaissances, de ressentis, beaucoup de temps où l'on va préparer, philosopher autour de cette quête des profondeurs. Et ça se fait ensemble. Seul, je n'aurais rien fait. Je n'aurais rien pu faire. Ça se sera arrêté à un simple fantasme d'adolescent. Et puis, je serais passé à autre chose.
Alors, je reviens un instant à la mère. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné d'essentiel, la mère qui vous habite, vraiment indépendamment justement de tout ce que vous avez reçu des hommes, des femmes avec qui vous travaillez?
Alors, j'ai appris beaucoup de choses. On va dire, si je dois isoler des points essentiels qui m'accompagnent encore aujourd'hui, quotidiennement, elle m'a appris que parfois dans l'adversité, notamment quand je me retrouve dans des très grandes profondeurs, où les conditions extérieures sont rudes, il fait froid, il n'y a pas de lumière, la pression est énorme.
Donc là, quand vous dites grande profondeur, c'est en dessous de combien? 70, 80
ouais,
mètres?
Voilà, en dessous de 70, 80 mètres, on peut déjà le ressentir à 30, 40 mètres. En fait, c'est un apprentissage qui ne cesse d'évoluer.
Et vous êtes descendu jusqu'à 100...
Jusqu'à 126 mètres.
26 mètres.
Et donc, dans toutes ces zones-là, j'ai appris que face à l'élément, face à quelque chose qui me dépasse, sur laquelle je ne peux pas avoir d'emprise, il faut apprendre à accepter notre condition, accepter notre vulnérabilité, accepter que on ne peut pas avoir le contrôle sur ce qui est bien plus grand que nous pour pouvoir continuer à plonger. Le réflexe humain face à la contrainte, c'est de résister, de se battre, de s'opposer. Et je pense que dans nos quotidiens, on a tendance à finalement appliquer cette logique pour tout, sans avoir la lucidité parfois du moment où il faut basculer dans une logique d'acceptation.
Parce que l'énergie dépensée... Et de lâcher prise, parce que moi, quand je vous ai vu descendre, je sentais un abandon complet. Là, au-delà de ces 25-30 mètres dont on parlait, vous vous laissiez... complètement couler.
Il faut s'abandonner, lâcher prise, à la fois physiquement, puisque c'est une histoire de tension musculaire. On doit vraiment laisser la mécanique opérée, c'est-à-dire la pression qui écrase le corps, et on peut rien faire si on résiste.
Mais c'est supportable, ça,
complètement, du moment que l'on accepte physiquement et qu'on se détend.
Parce que vous dites dans le livre à un moment que vos poumons deviennent tout petits, comme des points, quoi.
Complètement. Ils sont comprimés. Je pars avec 10 litres à la surface, qui est déjà beaucoup, et j'arrive en bas, il me reste moins d'un litre. Et donc, et après, il faut remonter, mais c'est de la pression. La quantité d'air est la même, c'est juste la pression qui comprime ce volume. Et je dois pour cela lâcher prise psychologiquement, mentalement. Donc, c'est à la fois physiquement et mentalement qu'il faut accepter. Et donc, ça, c'est une leçon très intéressante dans des quotidiens où on est assailli de sollicitations, d'agressions extérieures, de tout un tas de choses qui à un moment donné nous échappent, qu'on ne peut pas contrôler. Et apprendre dans certaines situations à lâcher prise et à accepter, c'est un enseignement très précieux.
Guillaume Néry, dans le petit passage que vous nous avez lu de cette lettre à la mère, vous dites que c'est à mes 14 ans que nous nous sommes réellement rencontrés. Pourtant, vous êtes né à Nice, vous habitez au bord de la mer depuis tout petit. C'est qu'à 14 ans que vous avez vraiment eu envie de vous plonger dans la mer, pas avant?
Toute mon enfance, l'été, il y avait toujours ces moments où on allait à la plage avec mes parents. C'est vrai que ce qui me plaisait, c'était de mettre un masque et des petites palmes. Mais ça restait ma petite aventure quotidienne ou hebdomadaire avec les parents. J'aimais bien me prendre à fantasmer être un Tintin qui va explorer le trésor de Rackham le Rouge. Mais disons que une fois rentré à la maison, je passais à autre chose.
Ça vous plaisait autant que d'aller marcher dans le Mercantour à côté avec vos parents?
C'était une des activités qui me plaisait. Une activité en extérieur de plein air. À 14 ans, par contre, je découvre cette idée de me mettre en apnée. Donc ça commence à l'extérieur, même pas dans l'eau, en faisant un concours avec un copain, comme tous les ados ou tous les gamins un jour se sont amusés à faire. On retient son souffle, on voit qui tient le plus longtemps.
Cette fameuse anecdote où vous êtes dans le bus, voilà, c'est ça. Et puis c'est la compétition de gamins, en fait, pour dire, allez, qui est-ce qui va retenir son souffle le plus
tout
longtemps
simplement.
Et vous perdez.
Et je perds.
Et ça vous plaît pas, ça?
Frustration, blessure de l'orgueil, comme ça sera arrivé dans n'importe quel petit échec de n'importe quel sport. Mais je me dis, bon, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, de le battre. Et en fait, j'ai mis un pied là dans quelque chose. Je découvre que cette incroyable machine qu'est le corps humain est capable de s'adapter, est capable de se modifier. Et je me réalise que tentative après tentative, au fil des jours, je tiens de plus en plus longtemps et c'est de plus en plus agréable. Je rallonge ce temps pendant lequel je suis bien et que je n'ai pas envie de respirer. Alors que c'est vrai, au début, la première expérience, hein, dans le bus, dans cette espèce d'idée de compétition, il n'y avait rien de très agréable. Mais je découvre qu'il y a quelque chose d'agréable. Et forcément, j'habite à Nice. Et à un moment donné, je fais la bascule et j'utilise ces capacités que je suis en train de découvrir avec un masque pour aller sous l'eau.
Et vous allez taper à la porte du club de plongée en apnée.
Exactement,
de Nice.
Voilà.
Alors je me suis dit, est-ce que c'est d'abord la compétition qui a été votre moteur, Guillaume Néry? Parce que vous avez été un grand compétiteur en apnée, vous avez été 4 fois champion du monde. Le moteur... Au début, ça a été ça, battre des records, être un champion.
Le moteur, c'était la performance. Je fais attention avec ce mot de compétition, parce que compétition, ça implique être face à d'autres et être meilleur qu'eux.
C'est quand même ce qui se passe, non, quand vous faites des compétitions, des championnats.
Oui, mais étonnamment, alors je suis effectivement un compétiteur à la base, quand j'ai commencé la plongée en apnée, ça s'est très rapidement mué en une quête de performance personnelle. Donc l'idée de progresser et l'idée d'un jour battre un record du monde. Quand on bat un record du monde, évidemment, on est meilleur que les autres. Donc l'aspect compétition est là quelque part.
Donc je vous entends bien, c'est pas le but de battre l'autre et d'être meilleur que de l'autre, c'est le but
d'être meilleur que moi-même et à un moment donné
toujours plus progresser.
C'est une idée d'exploration. C'est ça qui m'a plu dans cette discipline, c'est qu'on était bien au-delà de juste la simple pratique sportive comme dans d'autres sports finalement qui ne sont que des jeux. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Mm-hmm. Mais quand on fait un match de tennis, c'est un jeu et on essaie de gagner ce jeu.
Oui, mais là, le jeu JEUX peut devenir très vite un jeu JE, moi le champion, le meilleur.
Tout à fait, et ça je pense qu'il y a, il ne faut pas le nier, quand on veut battre un record du monde, il y a une espèce
par d'égo quand même.
Quête d'égo, une recherche de reconnaissance qui est évidente. Pour trouver cette motivation et cette envie, c'est un mélange de tout, mais cette partie-là, il ne faut pas la nier, elle fait partie évidemment de tout le processus. Mais quand on veut chercher à passer la barrière des 100 mètres, battre un record du monde, c'est se retrouver à un endroit où on est le premier à aller. Et donc, être le premier, c'est forcément être devant les autres, c'est vrai. Mais il y a cette idée de l'exploration. Un navigateur, en 1500, ne partait pas à la conquête d'une terre inconnue, pas pour être le premier, mais parce qu'il y a cette idée de l'inconnu à découvrir.
Mais alors, Guillaume Néry, vous avez fait vite quand même, parce qu'à 20 ans, vous descendez à 87 mètres en poids constant. Hein. Donc là, on va expliquer rapidement les différents types d'apnée, mais vous êtes descendu à 87 mètres en poids constant. Vous devenez le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée. Puis après, vous allez battre toujours les records. Vous allez toujours aller plus loin, toujours aller plus profond, jusqu'à 126 mètres. Et puis en 2015, on va le voir, vous tentez de battre encore votre record, aller à 129 mètres, et là, c'est le drame. Mais on va en reparler ensemble. Par contre, expliquez-nous rapidement, on ne va pas faire tout un cours d'apnée, mais les différences qu'il y a entre les apnées. Parce que vous, vous avez choisi le poids constant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je vais présenter en deux mots les autres, les plus, on va dire, les plus célèbres, les plus communes. Quand je dis que je fais de l'apnée, la première question qu'on me pose, c'est combien tu tiens ? On parle de temps et pas de profondeur. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'apnée statique. Prendre une grande inspiration, se mettre immobile et essayer de tenir le plus longtemps possible.
Dans l'eau.
Immobile, pourquoi ? Bah parce que c'est pour consommer le moins d'oxygène possible.
Et là, on peut rester combien de temps ?
Alors moi, je tiens entre 7 et 8 minutes. Les records du monde sont plus loin, à plus de 10 minutes. Donc ce n'est pas du tout ma spécialité. Ouais. Oui, c'est impressionnant.
Oh là là. Et vous, restez 7-8 minutes ?
Entre 7 et 8 minutes. Voilà. Donc ça, c'est une discipline qui est à la fois physique, mais surtout très, très mentale. Il y a l'autre discipline très connue, c'est celle qui a été mise en scène dans Le Grand Bleu. On appelle le No Limit. No Limit, comme son nom l'indique, tous les moyens sont bons pour aller le plus profond possible. Aucune limitation dans la réglementation. Donc on peut prendre un poids, on appelle ça une gueuse, qui permet d'aller le plus profond possible sans faire aucun effort. Et on remonte avec un ballon qui est gonflé d'air, donc qui permet de revenir à la surface sans faire d'effort. Cette discipline-là a été au départ la discipline la plus connue parce que dans cette recherche de performance, les pionniers dans les années 50-60, en gros l'idée c'était on prend un truc qui nous permet d'aller le plus loin possible.
Le plus vite possible et le plus profond possible.
Les limites humaines, quelles sont les limites de l'homme ? Voilà, aujourd'hui c'est une discipline qui ne se pratique quasiment plus parce qu'elle est devenue assez dangereuse du fait des profondeurs atteintes, près de 200, plus de 200 mètres. Mais il y a eu beaucoup d'accidents. Et donc la troisième, celle que je pratique, qui s'appelle le poids constant, comme son nom l'indique, le poids pendant ma plongée reste le même. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de m'aider de quelque artifice que ce soit pour descendre ni pour remonter. Et on descend empalement. Donc c'est un peu la discipline universelle parce que n'importe qui...
On dit la plus noble, hein, j'ai lu.
En soi la plus noble, la plus pure, mais la plus, enfin, on va dire pour moi, la plus répandue. Dans le sens où n'importe qui va au bord de la mer et qui se dit « Tiens, je vais aller me promener pour aller... » ramasser un caillou, un coquillage, bah il a une petite paire de palmes, un masque et il descend. Bah, le poids constant, c'est ça.
Et vous descendez profond, très profond. Alors, j'aimerais, Guillaume Néry, qu'on voit avec vous la préparation mentale qu'il faut. Parce que c'est ça qui m'intrigue. Je me dis comment un homme qui n'est pas fait quelque part pour être dans cet élément où il ne peut plus respirer, comment est-ce qu'on se prépare avant de plonger comme vous le faisiez pour tenter de battre le record du monde, mais aussi battre votre propre record et descendre jusqu'à 126 mètres, comme vous l'avez fait. Comment vous vous préparez mentalement avant de plonger ?
Non, je vais juste dire deux mots avant la préparation mentale. C'est que s'il n'y a pas derrière tout l'entraînement physique et l'adaptation du corps humain, on peut faire ce que l'on veut avec le mental, on n'y arrivera pas. D'accord. Donc la préparation mentale, à un moment donné, c'est celle qui va permettre à un organisme qui est préparé, qui est adapté, à réussir à optimiser ses capacités à un moment donné, un peu comme dans tous les sports.
Donc dans cet ordre, c'est d'abord nager beaucoup,
aller plonger, faire beaucoup d'apnée, travailler les aspects techniques pour être fluide, pour dépenser moins d'énergie. Le travail physique pendant l'hiver, on plonge un peu moins, ou on travaille musculairement, on travaille le cardio, on travaille la respiration, les poumons. Un énorme travail de souplesse aussi, avec des exercices de yoga pour que le corps soit souple et accepte mieux la pression.
C'est important ça, le yoga. J'ai lu plusieurs fois que les apnéistes pratiquaient le yoga à la fois pour assouplir leur corps, mais aussi bien sûr le pranayama, le travail du souffle.
C'est une mécanique, un entraînement autour du souffle, autour de l'élasticité du corps, et qui est aussi, on va dire, le premier pas pour un travail mental. Se reconnecter sur terre dans des postures, dans des exercices de respiration où on est à mi-chemin entre la préparation mentale, la méditation, ce qui nous permettra plus facilement de faire la transition pour aller très profond. Mais encore une fois, j'insiste, il n'y a pas besoin de faire du yoga pour être bon en apnée. C'est le petit truc en plus. Mais souvent, dans l'imaginaire, les gens se disent si je veux faire un peu d'apnée, je suis obligé de faire du yoga pour pouvoir réussir. Non, pas du tout.
C'est pas obligatoire.
Moi, mon premier record du monde, je l'ai fait en n'ayant pas fait une seule minute de yoga.
Mais vous y êtes mis après.
Ensuite, je m'y suis mis parce que, par curiosité personnelle et par volonté d'enrichissement personnel. Au niveau du mental, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un espèce de contrôle sur les émotions. Évidemment.
Comment ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment vous êtes là, sur la plateforme, vous allez plonger, vous allez descendre pour essayer de battre un record, vous savez que vous prenez des risques, vous risquez de mourir. Et comment vous vous préparez mentalement pour plonger ?
Alors, il y a cette idée vraiment que l'on prend un risque inconsidéré à chaque plongée, et ce n'est pas le cas parce que je plonge et je progresse très lentement. Et à chaque fois que je réalise une plongée, je vais dans un endroit que je maîtrise et je ne m'accorde le droit de progresser et d'aller un peu plus bas à la fois d'après que si tout est absolument sous contrôle. Je plonge en ayant décidé la profondeur que je vais atteindre, qui est une profondeur qui est connue, qui est maîtrisée. Je n'avance dans l'inconnu que mètre par mètre, 2 mètres par 2 mètres, maximum 3 mètres. Et donc du coup, tout est extrêmement cadré, ce qui me permet de pouvoir plonger avec une certaine sérénité malgré tout. Évidemment, il y a une notion d'engagement, puisque quand je pars et que je me retrouve à un moment donné à 100 mètres, je ne peux pas décider à tout moment de dire « j'en ai marre, j'arrête ». On ne peut pas abandonner, comme une apnée en surface, une apnée où on ne bouge pas, où dès que l'on veut reprendre son souffle, on a juste à lever la tête. Là, j'ai le trajet retour à faire. Donc oui, il y a une maîtrise des émotions, une grande concentration à avoir, et l'outil principal, c'est la respiration. La respiration comme un moyen par le corps de pouvoir rentrer dans ces sphères un peu intimes et rentrer vraiment dans une forme d'hibernation à la fois physique et mentale. Alors ce n'est pas du tout penser à rien, mais c'est un peu comme la méditation. C'est être centré sur l'instant, le présent et le ici. Je suis ici et maintenant. Et cette gestion de la ventilation, de la respiration, permet finalement une espèce d'harmonisation entre le corps et l'esprit.
Mais quand vous plongez, à ce moment-là, vous êtes dans la plongée, votre mental s'apaise. Est-ce que le fait de retenir votre souffle a une influence sur le fonctionnement de votre cerveau et de votre activité mentale ?
Alors oui, il y a une influence très positive d'ailleurs, et ça, je peux le... Pendant longtemps, j'avais cette intuition dans mon vécu que l'arrêt de la respiration entraînait une espèce de calme intérieur, de calme dans les pensées, et j'ai pu le faire valider scientifiquement il y a quelques années en travaillant avec un grand neurologue spécialiste du coma qui a travaillé avec Mathieu Ricard, notamment.
Donc et le moine bouddhiste, pratiquait beaucoup de méditation, enfin qui pratique beaucoup de méditation.
Il pratique beaucoup, ouais. Donc il a étudié son cerveau, le fonctionnement de son cerveau et les modifications au niveau électrique, les modifications au niveau des afflux sanguins au moment de la méditation. Et moi j'ai fait la même chose, donc dans un IRM pendant 2 heures, avec tout un protocole d'apnée, où je suis monté jusqu'à 7 minutes d'apnée, et on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment instantanément, à partir du moment où on retient son souffle, une redistribution de l'activité électrique avec certaines zones qui sont extrêmement activées, qui sont les mêmes zones qui sont activées pendant la méditation. Donc des moments où on est en pleine présence, où on est plus dans dans une gestion mentale de tâches à accomplir, dans des raisonnements, dans une activité qui consomme beaucoup d'énergie.
Mais pourtant, Guillaume Néry, vous devez être vigilant. Vous devez être totalement vigilant, puisque au bout de cette gueuse, vous devez prendre une petite tablette qui prouve que vous avez bien atteint le fond et que vous devez remonter avec. On parle souvent de cette ivresse des profondeurs, comme si les plongeurs en apnée, au bout d'un moment, vont être dans une forme d'ivresse qui va les attirer toujours plus profond. Là aussi, c'est l'imaginaire que beaucoup de gens ont après le Grand Bleu. Mais c'est quoi? C'est un mythe? C'est complètement faux? Ou il y a vraiment à un moment une ivresse des profondeurs?
Alors pendant toute la descente, il y a une grande vigilance, une grande concentration. Donc pour moi, être très présent et avoir cet état de conscience modifié ne veut pas dire qu'on n'est plus là. On est au contraire pleinement là. Pleinement là, concentré dans cette tâche qui est de palmer, qui est de relâcher son corps, qui est de ressentir le mouvement de l'eau sur le visage, de ressentir la vitesse, de savoir exactement où on est, d'avoir une conscience du temps qui passe. Donc ça, c'est l'hyperprésence. En arrivant en bas, je prends ma petite plaquette. Et effectivement, à partir du moment où je suis en bas, au cours de la remontée, donc ça, c'est un peu différent que ce que montre le Grand Bleu, je suis pris de cette ivresse des profondeurs, qu'on appelle, pour être plus précis, la narcose.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, la narcose, c'est une modification de la lucidité, et qui s'explique de manière physiologique. C'est la pression qui va entraîner la modification des concentrations de gaz, donc les gaz que l'on respire, au niveau du sang et au niveau du cerveau. Et donc, quand je plonge et que je suis à plus de 100 mètres, mon organisme utilise l'oxygène, il recrache du CO2. Normalement, le CO2, le dioxyde de carbone, quand on expire, c'est ce que l'on élimine à chaque souffle, à chaque expiration.
Et là, vous le gardez.
Sauf que là, je le garde, il s'accumule, et à forte pression, il a un effet qu'on appelle narcotique. Alors, on y a associé ce mot ivresse, qui nous amène à penser que il y a cette espèce de félicité,
vous planez. Un peu,
Et c'est pas c'est pas du tout la narcose, enfin l'ivresse que l'on peut voir dans le Grand Bleu. Mm-hmm. Moi, elle entraîne plutôt une espèce d'accélération des pensées.
Certains disent des visions,
oui,
et des visions, parfois monstrueuses, glauques, enfin,
tout à fait,
qui peuvent faire peur. C'est vrai.
Ce sont des visions qui ne sont pas toujours agréables, avec lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à. Que j'ai eu beaucoup de mal à gérer pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que j'arrête de trop m'investir dans ces visions, il fallait que je reprenne une forme de posture de spectateur. Mm-hmm. À partir du moment où j'ai créé ce détachement, j'ai réussi à garder ma distance avec ces visions et arriver à mieux les gérer. Il y a d'autres moyens très techniques pour les gérer, essayer de pas passer trop de temps sous l'eau.
Donc c'est pas le désir de finalement faire demi-tour et continuer à plonger plus profondément, quoi. Ça c'est un mythe.
RCF.
Guillaume Néry, le 10 septembre 2015, vous avez décidé d'essayer une fois encore de descendre plus profondément, battre votre corps qui était de moins 126 mètres. Et là, vous demandez de mettre la petite plaquette à moins 129 mètres. et vous plongez. Et là...
Les choses ne se passent pas comme prévu.
Pas vraiment. Vous voulez nous raconter, vous l'avez déjà raconté souvent, mais vous pouvez nous dire cet accident qui a failli vous coûter la vie.
Alors je tente de plonger à 129 mètres, qui en plus d'être mon record personnel, est un record du monde. Donc un jeu particulier. Et on descend le long d'un câble, ce fil d'Ariane dont je parlais tout à l'heure, ce fil d'Ariane est mesuré. Et on le règle pour que le bout du câble, là où se trouve la plaquette, soit exactement à cette profondeur que l'on annonce. Donc quand je plonge, je ne me pose pas la question de savoir quand m'arrêter ou où m'arrêter, puisque je sais que quand j'arriverai en bout de câble, je serai là, où, à la profondeur que j'ai tentée. Donc je descends, tout se passe à peu près comme prévu. Proche de l'arrivée, je me dis quand même, je ressens, ça me semble plus long que ce, ce que j'avais l'habitude de faire, ça me semble être assez long. Mais j'envisage absolument rien d'autre que moi qui ai pu éventuellement traîner un peu, peut-être un peu de courant qui m'a ralenti.
Donc vous prenez la
Et donc plaquette. J'arrive à prendre la plaquette, ouais.
Et vous remontez
dans une manière que j'apprécie pas trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis c'est pas possible, c'est trop long, je vais peut-être arrêter, et puis je lève la tête, je vois que c'est pas loin, j'y vais, peut-être un poil trop en force, sauf que je le fais jamais normalement. Je remonte, arrivé à quelques mètres de la surface, j'ai plus d'oxygène, je perds connaissance à 8-9 mètres de la surface. Et le premier vraiment réel souvenir que j'ai, c'est quand je reviens à moi, sur le bateau, sur la plateforme, les apnéistes de sécurité m'ont récupéré, c'est-à-dire à 10 mètres, quand je perds connaissance, j'arrête de palmer, ils me remontent en surface, ils me mettent de l'oxygène pour m'aider à revenir. Et là, je ne comprends pas. C'est le désarroi, je ne sais pas encore ce qui vient de se passer. Je pensais vraiment que la plongée allait pouvoir être réussie, validée, même si c'était un record du monde, j'avais quand même un sentiment de maîtrise. Désarroi total. Quelques minutes passent et je vérifie mes instruments de plongée, un ordinateur que j'ai sur moi. Et là, je vois s'afficher 139 mètres au lieu de 129 mètres. Et je réalise que l'organisation a fait une erreur dans la mesure du câble.
C'est énorme, c'est hallucinant.
Ouais, et je me retrouve 10 mètres de plus.
10 mètres de plus. Comment, vous vous êtes posé la question, comment on peut faire une erreur pareille qui a failli vous coûter la vie?
Oui, je me la suis posé la question, mais j'ai très vite compris le pourquoi. Disons que dans notre discipline, dans la codification qu'on utilise pour régler le câble, les erreurs sont possibles par tranche de 10 mètres. Et donc il y a un petit bout de marquage, c'était un bout de scotch d'électricien qui servait à marquer les dizaines sur le câble qui était parti. Et donc donc les 139 mètres se lisaient là 129 mètres. Et puis au moment de régler le câble, inattention. Là, il a fallu un concours de circonstances pour que les trois juges, à un moment donné, ne puissent pas se rendre compte de l'erreur.
Et vous leur en avez pas voulu ?
Sur le coup, si. Sur le coup, beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. Alors, le premier sentiment, ça a été un soulagement, bizarrement, de me dire « Ah, ok, j'ai perdu connaissance, j'ai fait cet accident quand même qui était assez grave, pour une raison, parce que je n'aurais pas compris sinon ». Donc soulagement et après, oui, colère, tristesse, etc. Et je prends la décision assez rapidement de dire « Bon, allez, stop,
j'arrête tout.
Ouais, sur le moment, je dis j'arrête tout, plus de compétition, plus de record, plus rien. Et je leur en veux pas parce qu'on est une petite communauté, parce qu'on se connaît tous, parce que ceux qui ont fait cette erreur, je les connais très bien. Certains sont des amis. Et puis je sais qu'ils en ont déjà suffisamment à s'en vouloir de cette erreur, que j'ai pas besoin de leur rajouter ce fardeau en plus.
Juste une question pour revenir sur ce trou noir là. Quand vous avez perdu connaissance, rien. Rien, aucun souvenir, aucune vision.
Non, le problème, c'est quand quand on perd connaissance comme ça, les 30 secondes qui précèdent la perte de connaissance sont effacées. Donc je me souviens d'en bas, je me souviens des premiers mètres de la remontée, et puis après, j'ai plus de souvenirs. Je me rappelle le moment du réveil, c'est un peu comme quand on nous réveille en plein sommeil profond, et qu'on a envie de dire, mais laissez-moi dormir. Et...
C'est ça, hein, vous le dites dans votre livre, foutez-moi la paix, quoi.
Voilà.
Laissez-moi dormir.
Ouais.
Et pourtant, eux, ils voulaient vous réveiller, vraiment. Ouais,
après, il n'y avait pas de risque que je reste endormi et puis que je meure. Hein. Au final, ça aurait pu être dramatique, mais ça ne s'est transformé qu'en une syncope qui peut arriver, qui est rare, mais qui peut arriver, mais sans, voilà, il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque, parce que j'étais très entraîné.
Pourtant, Guillaume Néry, dans cet art, j'ai pas le mot sport, c'est plus qu'un sport, je trouve, l'apnée. Dans cet art, cet engagement qui est le vôtre de l'apnée, il y a des morts. Vous avez perdu des amis, vous avez perdu des gens que vous aimiez. Je pense notamment à Loïc Leferme.
Qui est décédé il y a 15 ans, exactement.
En 2007, ouais, mais aussi Natalia Molchanova, une grande plongeuse russe qui est décédée à la 53 ans. Ça arrive, les accidents. Alors vous dites, on n'est pas des trompe-la-mort, nous les plongeurs en apnée, mais pourtant la liste est, je ne veux pas dire longue, mais il y a quand même des morts, non, en apnée.
Il y en a.
Vous vivez ça, vous, quand vous êtes apnéiste et que vos amis meurent dans une plongée.
Oui, évidemment, ce sont toujours des épreuves. La mort de Loïc à 15 ans a aussi marqué un petit coup d'arrêt pendant un temps où j'avais beaucoup de mal à retourner sous l'eau. La mort de Natalia, c'était un mois avant mon accident, et je sais que j'ai eu ce dernier mois de préparation avant ce championnat, des sentiments un peu étranges, un peu, j'essaie de le décrire justement dans la première partie du livre, cette espèce de pressentiment, d'inconfort avant de plonger, et finalement quand j'ai de l'accident, c'est comme si ces pressentiments s'étaient avérés annonciateurs, et c'est ça qui me fait arrêter vraiment rapidement aussi. Mais, alors voilà, attention, il y a une certaine accidentologie, mais ça reste très rare. C'est-à-dire que on prend 15 ans de plongeant en apnée, des dizaines de milliers d'apnées réalisées en compétition. Je ne parle même pas des apnées amateurs en club. On dénombre 3 accidents mortels, ce qui est beaucoup. Mais si vous comparez avec le ski freeride, l'alpinisme, tout un tas d'autres sports qui, pour le grand public, est moins dangereux que l'apnée, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce que nous, on a quand même une certaine maîtrise de l'élément. Pas comme dans les sports de montagne. Pour moi, les sports de montagne sont les sports les plus dangereux. Parce qu'on ne peut pas maîtriser, on peut être le meilleur guide du monde, on peut avoir la plus grande connaissance, à un moment donné, une avalanche qui nous tombe dessus, on ne peut rien y faire. Et chaque année, c'est des dizaines de morts dans des avalanches. Donc en apnée, finalement, moi je les ai. C'est beaucoup plus rare. Et ça, j'insiste pour tous les gens qui se disent, ça a l'air bien l'apnée, mais non, c'est dangereux. Non. Pratiquer de manière raisonnée dans un club, il n'y a jamais d'accident.
Encadré, faut pas être seul, faut pas s'amuser à faire ça tout seul.
C'est le truc le plus important. Si à un moment donné, vous chers auditeurs, vous dites, tiens, je veux essayer, oui, mais aujourd'hui, on a la chance que ce soit une activité qui s'est énormément développée. Il y a des clubs. Partout.
En piscine et au bord de la mer.
En piscine et en mer.
On n'est pas obligé d'habiter au bord de la mer. Guillaume Néry, après cet accident en 2015, vous dites « j'arrête tout », une décision impulsive que je tempérerai plus tard, dites-vous dans votre livre. Vous avez effectivement tempéré tout ça, vous avez continué l'apnée. Alors vous avez continué l'apnée d'une manière très différente, je trouve, à partir de cet accident. Vous avez eu une approche beaucoup plus artistique, et puis même poético-artistique dans le tournage de films que vous avez réalisé avec Julie Gauthier. Vous avez fait des tournages dans le monde entier de films, mais vraiment fabuleux, que j'encourage d'aller voir. Vous avez commencé avec Free Fall. Ça a été le déclencheur, Free Fall.
Oui, Free Fall, c'était le premier en 2010, donc j'étais encore compétiteur à ce moment-là. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu vraiment le monde de la compétition et puis d'un coup, paf, la bascule sur les films. Tout s'est un peu imbriqué. En 2010, Free Fall, qui est le premier, qui est un film réalisé, c'est un court-métrage, hein. Tout simple, sans prétention au départ, fait avec deux bouts de ficelle, Julie, apnéiste, qui me filme, moi qui suis en apnée, une personne qui s'occupe de notre sécurité. Et puis on monte ça un peu, voilà, on réalise ça de manière assez naïve, sans imaginer derrière que les images allaient faire le tour du monde.
Combien de millions de vues? Vous savez plus, vous comptez plus en fait. Vous, c'est en dizaines de millions de vues.
Oui, oui, celui-là, oui, parce qu'il a été repris par d'autres, en être au moins à 100 millions.
Puis alors après, il y a eu One Breath Around the World. Ça, c'est le plus grand, on va dire. Enfin, il fait combien? 14 minutes?
Il fait 12 minutes.
12 minutes. Oui, et celui-là, pareil, on peut le voir. Hein. J'encourage vraiment les auditeurs à aller voir sur les plateformes, YouTube, partout, on peut le voir. Et là, c'est des images incroyables. Comme vous faites croire que c'est une plongée. Hein. Vous partez de Nice, de la plage, et vous revenez à Nice. Mais ça vous a demandé de voyager à travers le monde.
Oui, bah c'était c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, à savoir raconter des petites histoires sous l'eau. Raconter des histoires en étant en utilisant entre guillemets les codes de la fiction, mais en étant dans des situations réelles, dans des décors réels, pour pouvoir mettre en lumière ces endroits extraordinaires.
Donc, un endroit hallucinant, c'est Yonaguni au Japon. Vous pouvez nous décrire un peu ce site sous-marin.
Oui, Yonaguni était presque à l'origine de l'envie de faire cette odyssée dans différents endroits sous l'eau. Ce qui est très très impressionnant dans cet endroit, c'est déjà la clarté, la limpidité de l'eau. Donc on est au Japon, dans l'archipel d'Okinawa, très proche de Taïwan. L'eau est translucide. Et puis il y a des formes sous l'eau qui peuvent faire penser à une cité engloutie. On a l'impression de voir des pyramides immergées et avec
un site antique
avec des marches, des escaliers, des angles tranchés et vraiment cette espèce de forme très très impressionnante et qui a l'air d'avoir été façonnée par l'homme.
Et
qui
en
réalité, on ne sait pas,
mais
il semblerait que ce soit naturel quand même parce que il y a deux écoles, deux équipes d'universitaires qui défendent leur thèse. Mais pour m'être baladé sur l'île, j'ai pu voir à d'autres endroits dans la roche des découpes un peu similaires. Donc je pense que c'est naturel, mais c'est un lieu qui a une grande puissance.
Puis alors, on peut pas parler de tout, mais il y a une scène absolument incroyable dans ce film où là, vous êtes avec les cachalots et il y a un cachalot qui semble vertical, ne pas bouger, et vous tournez autour. J'avais jamais vu la position verticale d'un cachalot. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce cachalot?
Alors, oui, effectivement, il y a ce cachalot qui est en train de se reposer, qui est en train de dormir.
Il fait
la sieste. Les cachalots plongent en apnée pour aller se nourrir et pêcher les calamars géants à 1500 mètres, 2000 mètres de profondeur. Ils tiennent une heure et demie en apnée. Et donc, entre ces moments de chasse intense, ils sont près de la surface, ils respirent, ce sont des mammifères comme nous. Et parfois, ils se reposent. Et quand ils se reposent, ils se mettent dans cette position verticale, la tête vers le haut, la nageoire caudale vers le bas, et on dirait des monolithes dressés dans une verticalité parfaite. C'est extrêmement impressionnant. Et voilà, on a eu la chance de tomber sur ce comportement animalier, et c'était un décor parfait pour notre film.
Incroyable, je renvoie vraiment à ce film. Il y a eu également le clip de Beyoncé, et là aussi ça a été un phénomène incroyable. Enfin, il a été vu plus de 400 millions de fois. C'est ce qui vous a donné, je dirais, un coup de pouce incroyable pour votre notoriété internationale. Comment vous l'avez vécu?
Non, pas tant que ça, parce qu'au final la star de ce clip c'est Beyoncé, c'est le nom Beyoncé.
Chanteuse, oui.
Mon nom il apparaît presque pas.
Non mais elle, on la voit pas dans le clip et
non.
Vous, on vous voit tout le temps.
On la voit, oui, oui. Disons que ça a contribué, ça a aidé. Il y a eu une succession de mise en valeur comme ça par ces projets qui, par la magie d'Internet, peuvent arriver partout dans le monde et être vus.
Et alors, comment on gère ça, Guillaume Néré? À la fois cette notoriété, parce que vous êtes aujourd'hui l'un des apnéistes les plus connus, et puis en vous lisant, je sens bien, il y a un désir chez vous de ralentir. Vous en parlez beaucoup, d'une certaine discrétion. Comment vous tenez ces deux, cette notoriété indispensable pour votre vie professionnelle d'apnéiste? Et puis ce désir de vie simple, de vie en vous posant à Moorea avec votre fille, comment vous tenez les deux?
bon, ben, je crois de voilà cette vie familiale avec voilà avec ma fille, ma compagne aujourd'hui aussi qui est pas du tout dans cette voilà qui me ramène on va dire les pieds vraiment sur terre. J'ai toujours eu je pense que mes origines familiales aussi très modestes. Le groupe avec lequel je plonge, tous mes amis apnéistes, je sais vraiment reconnaître les choses simples. Je suis attaché aux choses simples qui sont les valeurs de l'apnée. Et donc, bah, j'oscille entre ces deux univers. Quand je viens à Paris pour voilà, parler de mon livre, faire la promotion, bah, je rentre totalement dans cette vie-là parce que je sais qu'en même temps, tout ce que je vais essayer de partager, ça va toucher les gens. Ça peut les amener à eux-mêmes se questionner. Ça peut les amener à changer. Donc, c'est cette même logique de transmission. C'est pas être connu pour être connu. Au départ, il y avait un peu de ça, au tout début. Quand j'ai fait mes premiers records, je vais être la légende de mon sport. Je vais être parce que
et ben le nouveau Jacques Mayol, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Parce que j'étais fasciné par les champions sportifs. Je les regardais à la télé. Je dis moi aussi un jour je serai la légende. Et puis bon après on grandit et on se rend compte que tout ça faut le mettre au service de quelque chose de d'utile. Donc arriver à ce que les gens puissent lire, c'est pour ça aussi que je multiplie les moyens de pouvoir atteindre les gens, leur donner envie d'aller dans l'eau, leur donner envie de ralentir, leur donner envie de se concentrer sur eux, sur la respiration. Les images, c'est un vecteur, c'est un moyen, mais dans un monde aujourd'hui qui est inondé d'images, où l'image est omniprésente, j'ai de plus en plus envie d'utiliser les mots.
L'écriture. Vous aimez l'écriture.
J'aime l'écriture.
On sent dans votre livre, c'est pas juste anecdotique, on sent la manière dont vous avez travaillé les phrases. Vous essayez
oui,
de nous entraîner.
Il y a un style. Beaucoup de temps, d'énergie dans cette écriture. J'ai aimé l'exercice de la assaise, le calme, le silence, l'introspection. Finalement, ça m'a vraiment rappelé l'exercice de l'apnée.
C'est beau, un parallèle entre l'apnée et l'écriture.
Oui, complètement. L'écriture, c'est un exercice. Ça ne peut aboutir que dans le temps long. Et puis, j'aime ce moment de l'écriture où finalement, on crée une forme de bulle parce qu'on ne peut pas amener le lecteur dans cette espèce de fil. En vivant dans une frénésie, ce n'est pas possible. Donc il a fallu créer vraiment de nombreux moments dans une forme d'isolement. Il y a cette forme de solitude aussi, cette même solitude que je peux avoir quand je plonge. Et je trouve que l'objet du livre peut accompagner le lecteur et peut amener plus de questionnement en profondeur que regarder une vidéo.
Et sur le sens de la vie aussi, parce que il y a des mots que vous utilisez plusieurs fois dans votre livre. Il y a le mot privation, vous avez même donné un titre. Alors c'est pas simplement parce que vous avez été privé dans le confinement, mais vous le dites là, vous écrivez ceci, page 117, privation d'air, privation de nourriture, privation de chaleur, privation de bruit, privation d'interaction. Autant d'expériences de l'acceptation et de l'adaptation, autant de parenthèses de vide qui équilibrent le trop-plein de mon quotidien. C'est notre quotidien. En fait, l'apnée est une bonne école grâce à la privation, à toutes ces privations.
Dans ce chapitre, j'explique un peu les différentes expériences de privation. Bah, évidemment, l'apnée, privation d'air, évidence, mais aussi toutes ces autres expériences que j'ai eu envie de faire, des jeunes, des expériences où je plonge, alors ça c'est pour l'entraînement à la base, en partant sans air dans les poumons, pour créer déjà un espèce de vide à l'intérieur, sans vouloir aller très profond. Et donc, c'est la privation poussée au stade au-dessus. Et finalement, toutes ces expériences de privation, comme la marche aussi, parfois je vais marcher tout seul.
Dans la Drôme en particulier,
la Drôme,
je sais
voilà.
que j'aimais bien.
Et en fait, tous ces moments-là où je vais un peu m'extraire du trop-plein, de l'abondance, me permettent de vivre une forme d'élévation psychique, une forme d'élévation spirituelle, pendant lesquelles je pense que ça s'explique, d'un point de vue physiologique, parce qu'à un moment donné, se retrouver dans ces expériences de privation qui ne peuvent être que transitoires. On ne peut pas arrêter de manger toute sa vie. Ces moments où on est dans le jeûne, le corps s'adapte à une situation d'urgence. Quand on est en apnée, c'est transitoire. Et pendant ces moments transitoires, suspendus, on est dans une forme... Le corps se met dans un état de veille maximale et dans un état de survie. Et ça confère à une expérience spirituelle très forte.
On peut toucher Dieu, quelque part en plongeant?
Ah, ça, c'est la grande, c'est la grande question, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré. C'est évident que, et là encore une fois, j'essaie de ne pas m'approprier cette expérience-là dans le domaine de l'apnée. Je pense que toutes les tout ce qui va nous amener à vivre une relation très puissante avec l'élément, avec la nature, privée de tout artifice, nous confère, nous amène à vivre quelque chose de sacré. Alors après, on y met le nom qu'on veut. Mais ça, je pense que c'est un des grands questionnements de la vie et un des grands buts pour moi de compréhension.
Mais pour vous, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous dans cette expérience-là de communion profonde avec la mer et avec votre corps?
Je suis sans cesse partagé entre cette intuition, cette sensation que quelque chose me dépasse, et puis un cartésianisme qui me ferait dire que il y a cette petite parenthèse au milieu du néant qu'est la vie, que je traverse, et puis qu'à un moment donné, qui repartira dans le néant, et j'oscille un peu entre ces deux visions-là.
On se reverra peut-être dans quelques années.
Vous aurez peut-être,
vous en saurez peut-être plus, ou peut-être jamais. Une dernière question, je sais que vous avez une fille, Maïlou.
Tout à fait.
Qui a quel âge?
10 ans.
10 ans. Vous aimeriez qu'elle devienne apnéiste comme papa ou pas, sincèrement?
Ça dépend ce qu'on entend par être apnéiste. Elle l'est déjà un petit peu, parce que quand on va à Montréal, on plonge tout le temps ensemble, on va voir les baleines.
Mais sinon, faire ce que vous avez fait, vous lancer dans cette grande aventure des plongées en compétition.
Si elle le... J'essaie d'avoir cette vision pour ma fille que c'est un être humain totalement indépendant de moi. Donc j'essaie de n'avoir aucune attente et espérance. Je veux juste qu'elle soit bien et qu'elle fasse ce qu'elle aime. Et si ça doit passer par de l'apnée comme moi, eh ben, tant mieux. Mais j'ai pas du tout cette envie de forcément l'amener là-dedans. J'ai envie qu'elle aime la mer, j'ai envie qu'elle puisse s'épanouir comme moi dans la mer, mais pas plus.
Vous êtes un homme heureux aujourd'hui, Guillaume Néry?
Oui, ça dépend des jours, mais globalement assez heureux, parce que je pense que c'est une illusion de penser qu'on peut être heureux 100% du temps. Il y a des hauts et des bas, et ça fait partie de la vie, et c'est ça qui colore la vie finalement.
Vous n'avez pas le sentiment d'être en sursis en fait, que vous avez gagné quelques années en survivant après cet accident?
Ah non, 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 non. Non, juste après, oui, mais je pense que la vie est une succession de réjouissances, d'épreuves. Et puis, un peu comme quand je remonte d'une apnée et qu'il y a des moments difficiles, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite pour passer ces moments difficiles. Il faut les vivre. Ils font aussi partie de la vie.
Bien, merci beaucoup, Guillaume Néry. J'étais ravi de vous rencontrer. Je recommande votre livre « Nature aquatique » que vous venez de publier chez Artaud. Puis pour tous ceux qui ont envie de voir des images, hein, vous avez publié chez Glénat en 2019 un beau livre avec votre ami photographe Franck Séguin, un livre intitulé « À plein souffle ». Là, il y a des images aussi. Donc, ce beau livre de témoignage de Guillaume Néry chez Artaud, et puis ce beau livre d'images « À plein souffle ». Puis bien sûr, allez voir les vidéos. C'est ce que je faisais encore hier soir avec grand bonheur, et elles sont accessibles sur tous les sites, les réseaux. Merci Guillaume Néry.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.